Bonsoir, cher Xavier.
Bonsoir.
Allez, ce soir, dans le droit fil de notre première dispute, l'art contemporain prend l'air.
Il prend l'air dans les jardins, mais je vais faire un petit détour d'abord. Je vais vous emmener au musée, puisqu'on ne peut pas ne pas noter cette multiplicité des expositions en ce moment qui veulent représenter aux contemporains les classiques du paysage ou des jardins. Outre-Metz, chacune de ces expositions a son parti pris muséographique et scénographique, et le spectre est assez large. Ça va de jardin au grand palais, vous en parliez, Florian, dont la sobriété du nom tranche pour certains critiques avec l'éclectisme de son propos, jusqu'à la très classique, mais ambitieuse au-delà des étoiles, le paysage mystique, exposition au musée d'Orsay qui présente une centaine de paysages d'Odilon Redon, de Monet ou de Mondrian, au contact de peintres nord-américains, une exposition classique, mais pas scolaire, avec une grande portée spirituelle, le juge en tout cas Valérie Odos dans Culture Box. Voilà donc deux grandes expositions, d'autres plus petites tentent des hybridations muséographiques. Le musée de la vie romantique à Paris mise, lui, sur Pierre-Joseph Redouté, ancien graveur et peintre vallon qui travaillait pour les botanistes à l'époque. On l'appelait le Raphaël des fleurs, une exposition qui s'appelle Le pouvoir des fleurs, 250 peintures ou dessins floraux. Et vous avez peut-être inconsciemment une image de ces fleurs pâles comme si elles mouraient. C'est un peu le classique du genre et du 19e siècle. Mais hybridation, car le musée leur a adjoint un dialogue avec des œuvres contemporaines ad hoc, ce qu'il affirme être une première en France, affirme ce musée, donc qui se plie, on le voit, en quatre. Et puis les titres accrocheurs se multiplient à côté du Raphaël, il fallait aussi le prophète, le premier des impressionnistes, pour qualifier là Camille Pissarro, dont 60 tableaux sont présentés au musée Marmottan, mais aussi à Pontoise et au musée du Luxembourg, qui annonce des dessins aussi spectaculaires que peu connus. Enfin, il faut le noter aussi, le site Exponote rend hommage à l'accrochage à la fois didactique et surprenant de petit format d'Odilon Redon au musée des Beaux-Arts de Bordeaux, une exposition au titre suggestif, La nature silencieuse, qui a convaincu la journaliste Agathe Lauréamont, avec des tableaux pleins, dit-elle, d'un silence omniprésent, seulement troublé par le vent agitant les branchages d'un orme ou par le cri d'un épervier. Voilà donc sept expositions en même temps consacrées à la nature qui rivalisent d'inventivité. On reste dans la figuration paysagère ou florale au 19e siècle, mais vous voyez qu'il y a beaucoup d'efforts pour renouveler le propos. Et puis l'exposition de Metz, vous en parliez, entend montrer que l'intérêt pour la nature ne s'est pas perdu. À l'aube du 20e siècle, affirme le musée, la quête symboliste des origines du monde contamine les arts plastiques. Alors plutôt que le paysage, ce sont là les modèles, disons, du regard microscopique, vous en parliez aussi. Enfin, c'est vrai, le jardin comme matériau finit par s'insérer dans l'art contemporain. Ce n'est pas forcément nouveau, mais on le voit aussi dans les objets et la scénographie au Grand Palais, dans les jardins hors les murs à Metz, puis il y a aussi ce hors des murs de la FIAC dans les parcs de la capitale. Deux grands jardins aussi sont devenus des véritables parcs artistiques, deux institutions notamment qui prospèrent depuis 10 ou 15 ans en France. Le Festival international des jardins de Chaumont qui accueille dans son exposition en ce moment Flower Power des artistes contemporains, comme une vidéo de Davide Caiola, cet Italien qui vit à Londres. Et puis le domaine aussi de Kerguéhenneck, bien connu maintenant en partenariat avec le FRAC et d'autres institutions nationales. Et puis plus petite aussi, mais peut-être significative, le succès depuis 5 ans de cette biennale qui s'appelle XL Art, relatée par la Nouvelle République en Indre-et-Loire. 72 artistes, quand même 500 œuvres monumentale qui se visite en se baladant. Ceci au point que le jardin aurait remplacé presque l'opéra dans l'ordre des arts. En tout cas, c'est l'œuvre d'art totale pour le populaire du centre qui évoque l'exposition au Grand Palais. Alors voilà, que ce soit pour revaloriser la figuration, que ce soit pour un essai scénographique ou réintégrer du végétal à la fois sa grâce et sa puissance, comme le dit le Festival de Chaumont, comment expliquer cette extraordinaire diversité en même temps des expositions un peu partout, et est-ce autre chose selon vous qu'un phénomène saisonnier ?
Alors visiblement, vous avez fait un sacré rappel, Xavier Martinet, c'est plus que saisonnier, puisque cette saison au sens septembre-juin, on va le dire, parce que beaucoup d'expositions qui s'intéressent de près, souvent de loin un peu, à cette question-là, de jardin, de nature, d'extérieur. On peut citer quand même aussi les pionniers parmi lesquels Vassivière en Limousin, le centre d'art fameux, qui a mis en avant aussi ces jardins de sculpture, avec Dominique Marchez, avec ensuite, vous allez me rappeler le nom du Guy Tortosa, voilà, qui est toujours présent et intéressé par cette question de l'art dans la nature ou avec la nature, et puis pareil, la Biennale de Mel aussi, qui est aussi un lieu important de ce type d'expression. Flower Power, on va y aller, Corinne, on va ouvrir nos chakras. certainement.
Oui, au fond de chakra. Non, en tout cas, c'est pas du tout saisonnier. Puis non. La recherche sur les jardins est très, très soutenue depuis une dizaine d'années en France. Et puis, elle n'est pas neuve, hein, puisque quand même, l'école des jardins à Versailles... c'est vieux, ouais. Ça vient de la chaire d'horticulture, je crois, du 19e siècle, donc c'est une vieille chose chez nous, et puis bon, ça on le sait, les jardins à la française. Donc qu'on s'intéresse davantage ou que ça devienne plus visible, je pense qu'on est dans le terrain, enfin on est dans l'espace de pensée de que va devenir la terre. Voilà, il faudrait juste rappeler que notre terre est une terre d'agriculture, ça les chercheurs sur le jardin le savent. Mais depuis au moins les années 90, la question du paysage est très stimulée, stimulante en France. Enfin, il y a eu un livre qui a fait date, qui était sous la direction de François Dagonier, qui était mort du paysage, c'était dans les années 80. Mais Alain Roger a écrit ses traités de... petit traité du paysage, je crois, et puis aussi histoire du paysage en France dans les années 90. Donc là-dessus, ça s'est vraiment embrayé, mais pas que. Je veux dire, on a le grand, pour moi, Augustin Berg est un des grands penseurs entre la géographie et la question du paysage aujourd'hui, puisque le rapport est botanique-paysage, mais aussi géographie, même la pensée même du paysage est originaire. Et passer de la géographie à quelque chose d'une discipline plus large, qui est l'art, l'histoire de l'art. Voilà. Donc, il y a aujourd'hui des réflexions sur l'architecture des jardins, mais qui sont en rapport aussi à toute la pensée urbanistique aujourd'hui. Il n'y a pas que le paysage, parce que c'est ouvert. C'est aussi dans quel environnement on vit. Donc, le clivage traditionnel et très pauvre, nature-culture, n'existe plus. Enfin, il est plutôt lié à environnement-paysage, c'est-à-dire dans quel écosystème vivons-nous, de quelle manière on produit des formes, voilà, comment on les pense, comment on les vit. Donc, évidemment, c'est pas du tout saisonnier, c'est pas du tout artificiel. Cette manière de manifester un dehors et un dedans, c'est aussi pour décloisonner quand même des formes institutionnelles d'exposition aussi. Je rappelle que le Land Art, et là c'était Gilles Tibergien, avait écrit un formidable livre dans les années 90 aussi, qui n'a pas été réédité. Je trouve ça regrettable, parce que je trouve que c'est un de ses meilleurs livres, sinon le meilleur. Sur Land Art, qui était vraiment, voilà, Land Art, c'était quoi? Des artistes et des conceptuels qui sont sortis de la galerie en disant non à l'institution ou à YouTube, et donc de le mettre dans des lieux où personne ne va, puisqu'il fallait le voir d'avion, par photo, c'était le rapport du site et du non-site. Donc il y a une vraie réflexion, si vous voulez, du territoire qui dépasse largement le pur événementiel. Voilà, on va fleurir les villes qui sont elles-mêmes fleuries. Je suis sûre que Metz est une ville fleurie. Vous savez, vous rentrez dans les villes fleuries.
Le nombre de fleurs.
Voilà. Donc voilà, c'est pas la question de la fleur, c'est pas la question du jardin, c'est aussi effectivement prendre conscience de quand l'environnement vit-on, et quand on n'a pas la politique écologique qui va avec, bah, on trouve les moyens aussi de réintégrer, je dirais, une forme beaucoup plus culturelle de le rappeler, bien qu'effectivement il y ait une recherche très, très intense depuis, je le dis, au moins le début des années 2000, même si elle s'est déjà mise en place à la fin des années 80.
Florian Guettet, sur cette question, sur ces questions.
Oui, mais je souscris plutôt à la vision de Corinne, même si c'est peut-être pas inintéressant de se demander si, même si c'est un sujet ancien, qu'est-ce qu'aujourd'hui de nouveau vient pointer dans cette problématique-là. Est-ce qu'on en a enfin fini avec la vision romantique de la nature, et est-ce qu'on arrive aujourd'hui, à l'heure de l'anthropocène, à renouveler les questions? Effectivement, il y a une question de rupture avec l'anthropocentrisme, avec des questions écologiques, avec effectivement, comme les politiques sont toujours en retard, ben il faut bien qu'il y ait des lanceurs d'alerte que sont ces artistes. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, notamment dans le texte, dans le discours de Gilles Clément, c'est de proposer le jardin ou le paysagisme comme une sorte de contre-modèle à la mondialisation telle qu'elle est proposée aujourd'hui. C'est pour ça qu'effectivement elle fait partie de la réflexion urbanistique depuis les années 70, qu'aujourd'hui beaucoup d'artistes en emparent. On a parlé de Louis Weinberger tout à l'heure, mais c'est un exemple des plus flagrants. Mais c'est vrai que ce motif ou ce territoire du jardin a quelque chose d'assez cosmopolite à transmettre, comme si effectivement il était au-delà des frontières et qui permettait des formes de communauté. On a aussi tous ces jardins partagés qui sont maintenant qui fleurissent dans les villes depuis les années 2000. Je crois qu'on a une plus de centaine à Paris. Donc ça aussi, ça crée quand même beaucoup de dynamisme, ça crée beaucoup de d'échanges. Et puis ce lien à la terre qui finalement est peut-être pas si ringard que ça et qui empêche peut-être de d'errer trop facilement dans des mondes virtuels ou spéculatif.
Comme c'est bien dit. Xavier Martinet ?
Oui, j'avais quelques petites remarques. Peut-être d'abord la faible exposition, il me semblait en tout cas dans la presse nationale, de ces grandes expositions de jardins en tout cas, qui sont bien relatées souvent dans la presse locale, mais peut-être et pour cause, parce que c'est des expositions qui ne peuvent pas se raconter de manière, vous le disiez un peu Corinne, esthétique, ni vraiment encyclopédique. C'est difficile de savoir ce qu'on vient chercher. D'ailleurs, il n'y a pas de marché pour cet art qui soit végétalisé ou pas, ou alors... si peu de toute façon, puisque les jardins se transforment automatiquement en musées. La deuxième chose, quand même, elle me semblait poser un problème esthétique, et encore une fois, vous y faisiez allusion, Corinne, lorsque vous parliez de recherche du désordre, j'ai vu apparaître au moins deux fois dans l'intention ou dans le commentaire de certaines expositions, celle au Grand Palais et celle de Metz, qu'il y avait, en tout cas, dans la recherche d'un rapport à la nature ou au jardin, une volonté de la part des scénographies de briser un peu la linéarité de la progression dans l'exposition. Je ne sais pas si c'est, une recherche nouvelle, mais du moins, on voit qu'il y a là un modèle auquel certains scénographes, en tout cas, s'attachent.
Corinne Landau ?
Oui, non, mais je peux l'entendre parce que En tout cas, je ne sais pas l'autre exposition, mais en tout cas, mais c'est certain, la question du désordre est assumée par le commissariat.
C'est le cas, on en parlait aussi.
Ce qui est évident, c'est que quand vous cherchez le désordre, vous ne cherchez pas la clôture, donc forcément, vous cherchez à rompre les distinctions. Ça me paraît assez évident, et donc effectivement, il y a une question qui se pose depuis un certain nombre d'années, notamment dans l'esthétique, de c'est quoi les porosités. Enfin, moi, j'aime beaucoup de mal avec ce terme. Par contre, effectivement, faire tomber un certain nombre de distinctions qui, sans doute, la qualité affirmée, en même temps, pour moi, un défaut en termes de spectatrice ou de visiteuse à Metz. Et je pense que c'est un symptôme, en tout cas, dans lequel nous vivons. Et chercher le désordre, c'est aussi se mettre, sans doute, à l'ordre du monde, hein. Donc c'est pas, c'est vraiment un symptôme. Je ne critique pas le symptôme, je le constate.
Florian Gaité, pour finir, ce petit salon.
Oui, et puis il y a quand même aussi un autre changement esthétique ou un glissement esthétique qui se produit à travers ce motif végétal, c'est que avant on cherchait quelque chose de très joli dans les fleurs et dans les végétaux. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a une vraie présence des herbes folles, des mauvaises herbes, herbes qui servent à rien. Et donc du coup, on est plus dans une sorte de vénération que moi j'avais attribué au romantisme, mais je crois que c'est un des restants de ça.
Ouais, ça c'est aussi tout ce qui essaime du côté de la pensée de Gilles Clément. On connaît bien, justement...
Ensauvager la ville.
Notamment. Enfin bon, à l'accompagner, la regarder, être co-auteur du jardin, en tout cas avec la nature, entre le jardinier et la nature. Bon, nous on a toujours une clôture, on ferme les portes du petit salon.